Les Midis de Culture. Marie Laborie.
Qui se soucie des Afghans et des Afghanes à l'heure où le fracas des bombes résonne, le silence imposé par les talibans à leur peuple n'assourdit plus personne ou presque par ici. Plus de musique, plus de poésie, plus de chants et pour les femmes, la chape est plus lourde encore. Plus de paroles en public, plus de voix donc, plus de visage non plus, plus de corps dans l'espace. Cela fait 4 ans maintenant que les talibans ont repris Kaboul et le pays tout entier et les femmes disparaissent. Une grande prison pour femmes, disait il y a quelques jours au micro de France Inter l'écrivaine et journaliste Mursal Sayas. Pourtant, les photos de Sandra Galigaro parviennent à capter la vie qui s'immisce, la vie qui résiste derrière les rideaux et les fenêtres occultées. L'Afghanistan, elle y travaille depuis près de 20 ans maintenant, elle l'a vu espérer, puis se refermer. Son travail est exposé au festival Visa pour l'image en ce moment et elle est l'invitée des Midis aujourd'hui. Bonjour Sandra Galigaro.
Bonjour.
Et bienvenue dans les Midis de Culture. Alors, le titre de ce travail qui est exposé en ce moment au festival Visa pour l'image à Perpignan, festival qui, je le rappelle, met à l'honneur la photographie documentaire et le photoreportage. Le titre donc, c'est Afghanistan à l'ombre des drapeaux blancs. Ces drapeaux blancs, ce sont ceux des talibans qui sont revenus au pouvoir en août 2021, il y a 4 ans tout juste. Mais vous documentez, on l'a dit, la vie en Afghanistan depuis longtemps maintenant, depuis 2007. Vous avez donc pu constater, vous, sur place, les conséquences concrètes de cette reprise brutale. Quand vous êtes revenu juste après la chute de Kaboul, hein, qu'est-ce qui vous a frappé en premier ?
Le calme, en fait, je pense. En fait, c'est ce qui m'a frappée et contre toute attente, une grande liberté de mouvement pour nous, journalistes occidentaux. Mais je parle vraiment au moment, en fait, où les talibans sont revenus. Après, évidemment, beaucoup de peur aussi, beaucoup de peur, de la sidération. Ça, c'était moi, je qui connaissais le pays depuis plus de 10 ans, on savait que les talibans allaient finir par revenir, en fait. Mais on s'était presque habitué à cette menace. Et d'un coup, ils sont là. En fait, on n'était pas préparés. Donc, il y avait vraiment une grande sidération, en fait. Grande sidération. Et les premières semaines, les premiers mois, les journalistes ont pu pouvaient librement circuler. En fait, dans un premier temps, il y avait une sorte de lune de miel talibane. En fait, les talibans essayaient un petit peu de redorer leur blason. Et oui, le mot qui revient en fait tout le temps, c'est cette sidération. Et puis nous, médias étrangers, qui cherchions à les photographier depuis plus de 10 ans, mais eux étaient des insurgés, donc ils se cachaient. Donc c'était très très compliqué, très très risqué. Et d'un coup, ils étaient partout en fait. Et pour moi, c'était juste, j'y croyais pas, c'était improbable. Et les personnes qui connaissaient, comme moi, l'Afghanistan depuis un certain nombre d'années, étaient complètement ahuris, abasourdis, et il y avait une différence en fait notoire avec les journalistes qui sont arrivés quelques jours après, qui ne connaissaient pas le pays, parce qu'on peut pas tous connaître le pays ou tous habiter dans ce pays, mais qui photographiaient les talibans comme quelque chose de normal. Et nous, avec nos consoeurs, nos confrères, moi je disais, mais ils se rendent pas compte en fait, ils ont des talibans en face d'eux, et nous on les cherche depuis 10 ans et on les photographie de manière très difficile. Alors voilà, après ça c'est pour le point de vue de la journaliste occidentale, pas de la femme, pas de l'afghane, pas des citoyens, évidemment. Voilà, ça on va.
Alors dans votre, on va bien sûr aborder votre travail actuel à l'ombre des drapeaux blancs, mais il y a un livre qui est paru en 2016 aux éditions Pendant ce temps, Afghan Dream, et à l'époque vous aviez photographié l'émergence quelque part de une forme de classe moyenne plus urbaine avec une forme de modernité qui commençait à émerger là, à naître. Ouais, où sont-ils ? Quand vous êtes revenus, ils étaient où ? Où elles étaient elles aussi ?
Quand je suis revenue, ça faisait déjà quelques années en fait que cette frange de la population essayait de partir par tous les moyens du pays, parce que même si les talibans sont revenus de manière assez brutale, ça faisait quelques années que la situation dans le pays était vraiment, la situation sécuritaire était vraiment très mauvaise, Et il y avait beaucoup d'attentats. Les insurgés, les talibans, s'ils ne contrôlaient pas Kaboul, ils contrôlaient beaucoup de villes, beaucoup de provinces, beaucoup d'autres villes, je veux dire, beaucoup de provinces. Donc ils étaient déjà, en fait, sur le départ ou à essayer de partir. J'étais pas là, en fait, physiquement à Kaboul pendant la chute, le 15 août 2021. Mais avec d'autres journalistes qui étaient à l'étranger à cette période-là, on a fait des listes, on a essayé de les faire sortir, toutes les personnes que j'avais photographiées ou que je connaissais, les fixeurs, nos collaborateurs. Donc, ils étaient déjà en partie, quand je reviens, ils sont en partie plus là déjà, depuis soit plusieurs années, plusieurs mois, voire quelques années, ou depuis juste quelques jours.
En tout cas, l'arrivée à Kaboul des talibans met un coup d'arrêt complet à cette émergence-là d'une génération qui aurait pu aller vers une forme de libéralisme.
Exactement. Et puis, de toute manière, même ceux qui sont présents ne peuvent plus vivre du tout de la manière dont ils vivaient pendant, on peut pas dire 20 ans, parce que le temps que la classe moyenne, en fait, que cette classe moyenne émerge, mais pendant une petite dizaine d'années, à Kaboul, je sais que c'est étrange de dire ça, mais il y avait une relative liberté pour les jeunes gens, pour les citadins et pour les femmes aussi. Tout ça s'est évidemment arrêté à partir dès le 15 août 2021.
Alors, de quelle façon vous avez abordé la situation telle que vous la trouvez quand vous arrivez en août 2021? Est-ce que quelque chose a changé dans votre façon de travailler, d'aborder les gens que vous rencontrez?
Oui, j'ai la manière de travailler a forcément changé soudainement parce que on est passé d'un régime démocratique où la presse avait une grande liberté, un régime autoritaire, une théocratie, donc une dictature où les médias, même si au début ne sont pas trop contrôlés, on sent très vite qu'on peut pas dire ce qu'on veut. Et puis c'est surtout ce qui a vraiment changé pour moi, c'est que pendant plus de 10 ans, j'ai cherché à me cacher en fait des talibans, à me sentir en sécurité dans les centres-villes, et dès que je sortais de la ville, que j'allais en province, il fallait que je me dissimule, il fallait que je cache en fait le fait que je sois étrangère pour ne pas être vue par les talibans qui étaient insurgés à ce moment-là, et pour ne pas mettre en danger toute mon équipe. D'un coup, ils sont au pouvoir, donc j'ai plus besoin de me cacher d'eux. Donc ça a changé. Par contre, ça a de nouveau changé depuis quelques temps où les journalistes n'ont plus d'accréditation, en fait. Enfin, très peu d'accréditation de travail. C'est très difficile aujourd'hui de travailler de manière officielle comme journaliste, comme photographe, comme personne affiliée à des médias. Donc, moi qui, en fait, en 2021, pouvais... je suis désolée, c'est complexe.
Non, c'est très intéressant.
Mais moi qui, en 2021, en fait, pouvais travailler de manière complètement ouverte, ça n'a pas duré longtemps, puisque très vite, les médias ont été contrôlés. Je dirais une année et demie après leur arrivée, environ. Et maintenant, en fait, si je travaille dans la plus grande discrétion... En fait, et ça dépend, parce que les dernières fois, pour réaliser le travail qui est exposé à Visa, par exemple, j'ai pas eu d'accréditation de travail. En fait, je l'ai même pas demandé parce que je savais que j'ai risqué de pas l'avoir et pour ne pas mettre de, comment dire, mais pour pas attirer l'attention sur moi, j'ai décidé de travailler, enfin d'y aller avec un visa normal, en fait, en tant que touriste, artiste. Je me suis signalée aux autorités, mais en disant que je faisais des photos de la ville, que je réalisais un portrait de la ville, donc ce qui n'était pas tout à fait faux. Un second portrait de la ville qui venait en fait en, en lien, en fait, comme un second chapitre d'un premier portrait que j'avais réalisé 10 ans auparavant, qui montrait le pays pendant le régime démocratique et donc sous influence occidentale, américaine, etc. Et donc j'ai dit que je venais réaliser un sujet, en fait, un portrait de cette ville maintenant qu'elle avait changé que le régime avait changé. Et je me suis présentée comme ça. Et on m'a dit, OK, très bien. Donc, il fallait que je montre un petit peu, en fait, à l'extérieur, que j'aille dans des endroits touristiques, faire mes paysages. Et en même temps, dans certains endroits où j'allais voir les femmes qui font des petites choses, pas grand chose en fait, mais qui sont beaucoup. Là, il fallait que je me cache et que je me dissimule et que je fasse tout pour qu'on évite qu'on voit que je sois occidentale, pour ne pas mettre en danger. Alors, c'est même pas moi, en fait, c'est mon équipe et puis les personnes que je vais photographier. Donc, c'est assez complexe, en fait. C'est tout un jeu, c'est vraiment un jeu de... presque au chat et à la souris. Et je touche du bois et ma tête et... Ça a été.
Alors, on va parler justement de tout ce travail que vous faites sur les femmes afghanes et de leur courage et de tout ce qu'elles mettent en place qui existe encore, cette vie dont je parlais. Mais comme vous en parliez, il y a quand même plusieurs photos où on voit les lieux où les hommes sont présents et notamment deux photos où on voit des jeunes talibans. Il y a ce jeune homme qui est gardien dans un palais. Et je me suis demandé comment vous avez fait cette photo-là. Comment ces jeunes hommes-là acceptent de poser pour vous?
Alors, il faut savoir que les Afghans adorent être pris en photo. Vraiment, ils adorent. C'est parce qu'être pris en photo, en fait, les prendre en photo, ça veut dire qu'ils sont intéressants. Et c'est vrai, en fait. Moi, toute personne que je prends en photo, c'est parce que je la trouve intéressante. Et donc, les jeunes hommes que je prends en photo, qui posent de manière plus ou moins fière, en fait, avec leurs armes dans des lieux qui sont beaux, en fait. Ce sont des photos assez faciles à prendre, puisque ça ne montre pas une mauvaise image du combattant taliban. Et pour moi, c'était important de prendre ce genre de photos, pas parce que, en fait, ça montre une belle image ou une jolie image d'un combattant taliban. Non, pas pour ça. Parce qu'en fait, ce sont des jeunes hommes qui ont 18, 20, 22 ans au moment de la photo, qui sont depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années dans une ville, à Kaboul, la capitale, alors qu'eux, ils ont grandi dans des petits villages, en fait, dans les provinces avoisinantes de Kaboul. Ils se retrouvent propulsés, en fait, dans cette grande ville, donc c'est tout nouveau pour eux. Et ils sont assez fiers. Et moi, je pensais, en fait, dans un premier temps, qu'ils seraient assez... triste, en fait, un peu qu'ils aimeraient pas trop être garde, en fait, comme ça, devant d'un palais. C'est pas très intéressant, parce que je leur demandais, mais toi, tu préférais pas être en train de faire la sécurité avec ton arbre, que ce soit un petit peu plus actif. Et Niamatoula, un des jeunes, me répond, non, en fait, moi, je suis très content d'être là. C'est un très, très bel environnement. Et puis, j'ai jamais vu ça, en fait, dans ma jeunesse. Et tout ce que je veux, en fait, moi, tout ce que je rêve, en fait, tout ce que je veux pour mon pays, c'est la paix, en fait, et qu'on soit, et d'améliorer mon pays. Donc exactement, en fait, les mêmes rêves, en fait, que les mêmes aspirations que les jeunes gens des classes moyennes que j'ai photographiés 10 ans avant. Et ces jeunes gens, ces jeunes combattants, en fait, n'ont pas bénéficié du même ascenseur social que les jeunes citadins, puisque dans les provinces, l'argent, en fait, l'effort international, l'aide internationale n'arrive que très peu, voire pas. Donc je me pose... Voilà, quand je vois ces jeunes combattants, en fait, qui n'ont pas pu aller à l'école, qui ont été en madrasa, des écoles coranes. Ils n'ont pas pu aller à l'école parce qu'il n'y en avait pas dans leur village. Donc, leur instruction vient de la madrasa, les écoles coraniques. Très vite, on leur donne une kalachnikov dans les bras. Et à 14 ans, ils sont déjà ce sont des combattants. Donc, je me demande s'ils ont choisi... S'ils ont choisi leur destinée, et est-ce que ça fait d'eux des c'est peut-être un peu naïf aussi de ma part, mais est-ce que ça fait d'eux des mauvaises personnes? En tout cas, est-ce qu'ils ont choisi de devenir combattants talibans? Et ça, cette nuance, je voulais vraiment qu'elle apparaisse dans mon travail.
Alors, dans votre travail, ce qui frappe évidemment, c'est qu'il y a une forme de pudeur, et vous la revendiquez, hein, une forme de, même de distance, on va dire, respectueuse, en fait, avec votre sujet. Je voudrais vous faire écouter le point de vue d'une autre grande photographe.
Vous savez, je trouve que rien ne ressemble à un cadavre plus comme un autre cadavre. Finalement, pourquoi je ferais ça? En plus, vous voyez, vous allez faire des photos terribles, vous allez profiter de l'instant terrible, et après vous allez gagner de l'argent avec ça, mais qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Comment? C'est la honte, c'est, pour moi c'est honteux, c'est de l'argent qui est sanglant, il ne faut pas toucher à ça. Donc, dès le départ, non, je ne vais pas faire ça. Et en plus, moi, je veux montrer mes photos à mes amis, que les gens soient contents. Je veux pas que les gens voient mes photos en disant « Mais quelle horreur, comment tu as fait ça ?» Non. Je veux que les gens disent « Ah ben oui, ça aussi, ça existe. Mais... » Capable, non, il n'y a pas de sang dans ces photos. Il y a une photo d'un franc-tireur qui a été touché, qui est couché par terre, il y a une flaque de sang à côté de lui. Mais un photographe d'aujourd'hui, il s'approcherait du cadavre. Peut-être qu'il ferait la tache de sang en gros et ça serait publié dans Match. Et ils aiment ces trucs un peu d'horreur, ce petit mélange, vous voyez, qui est particulièrement obscène. À l'époque, les choses n'existaient pas exactement comme aujourd'hui. Il n'y avait pas cette espèce de voyeurisme, cette surenchère de trucs atroces dont je ne comprends pas le but, franchement. C'est un métier de danseur de cordes, hein. C'est comme si on est un équilibriste, hein. C'est chaque fois assez difficile, et chaque fois tout est à remettre en cause et en question. Et comme on est seul, c'est assez difficile, parce que maintenant c'est vous-même le propre juge de ce que vous voulez faire ou pas faire. Donc à mon avis, enfin pour moi-même en tout cas, je trouve qu'il faut avoir une position morale assez stricte. Non, ça vous faites pas. Non. Peut-être d'autres le feront, ils auront leur parution, tant mieux pour eux. Ben, ça passera pas par moi.
La grande photographe Marie-Laure de Decker, c'était en 2004 dans L'Humeur Vagabonde sur France Inter. D'ailleurs, dépêchez-vous, si vous le pouvez, d'aller voir la rétrospective qui lui est consacrée à la Maison Européenne de la Photo à Paris, parce que c'est jusqu'au 28 septembre. Sandra Caligaro, elle dit plusieurs choses hein, ici dans cette interview, mais d'abord l'idée de la position morale du photographe. C'est une question qui se pose encore à chaque fois que vous déclenchez cette position morale.
Oui, bien sûr, il faut la voir. En tout cas, moi je l'ai. Je ne juge pas en fait les comment les autres photographes agissent, opèrent, ce qui se passe dans leur tête. En tout cas, moi je l'ai. Et dans ce que dit Marie-Laure de Decker, je me retrouve tout à fait, parce que j'ai quand je suis arrivée en Afghanistan, je suis arrivée parce que je voulais être reporter de guerre. Je voulais couvrir la guerre. Je voulais vivre la grande aventure. Et assez vite, en fait, j'ai fait tout autre chose. Même, j'ai essayé de photographier la guerre, mais ça me ressemble. Enfin, c'était pas moi. Ça me ressemblait pas. Peut-être, je suis trop. C'est pas que je suis pas assez rapide, mais j'attache trop d'importance en fait à la relation, à ce que vont penser les gens photographiés de moi aussi, à ce que je vais leur laisser. C'est pas ce qu'ils vont penser, mais ce que je vais leur laisser. On prend beaucoup, nous photographes, quand on photographie. Enfin, j'estime que je prends beaucoup, donc j'essaye aussi de donner. Et que moi, en fait, pendant le temps de la prise de vue, que les personnes photographiées et passer aussi, enfin qu'ils aient retenu quelque chose de cette rencontre, même si elle dure des fois quelques secondes. Mais là où je me reconnais beaucoup, c'est sur le caractère en fait qui peut être obscène de la guerre et de la manière de photographier et de la manière qu'on pourrait photographier quelque chose qui est loin de nous et qu'on se permettrait pas si on était à côté, enfin si c'était chez nous. Et j'ai toujours aussi voulu que mes photos soient vues, qu'elles soient regardées, mais dans le sens qu'elles soient vraiment regardées, qu'elles touchent le public en fait, le public qui va les voir. Et je pense que pour toucher un public, faut qu'ils puissent s'apparenter. C'est pas avec de l'ultra-violence qu'on se reconnaît dans une image. Après, moi, j'ai toujours photographié beaucoup plus les émotions que les faits eux-mêmes, même si en fait via les émotions on peut raconter beaucoup. Et puis même si mon travail est un travail documentaire, donc il y a Il y a toujours en fait un environnement qui est là, mais vraiment j'ai voulu me tout mon travail en fait essaye de se battre contre cette facilité de la guerre, de la violence, de du chaos, de la pauvreté, et j'ai vraiment essayé de m'éloigner en fait autant que possible de ce caractère en fait que je trouve vraiment que je peux trouver obscène. En tout cas, moi, dans ma manière de photographier.
Là, ce que vous avez photographié, forcément, ce sont beaucoup d'intérieurs, puisque, comme vous l'avez dit, quand vous allez photographier des femmes, elles sont cloîtrées, on va dire. Et c'est là, finalement, où elles trouvent une forme de liberté, parce qu'alors, c'est incroyable, elles ont des écoles clandestines, puisqu'on va le répéter, mais les jeunes filles n'ont plus accès à l'éducation. Elles ont des salons de beauté clandestins, elles ont des endroits où elles font de l'art ensemble. C'est incroyable, et vous arrivez à montrer ça, et je me suis posé la question de comment rendre l'intensité quand même de cette expérience à travers ce cadre qui est intime et quelque part un peu simple en fait, hein, d'une vie quotidienne. Comme vous dites, il n'y a pas forcément un acte devant l'écran, devant l'objectif.
L'intensité existe malgré tout. En tout cas, moi je la perçois, je la sens. Il y a une intensité, parce que même si elle peigne, même si elle fréquente des écoles clandestines, tout ça est, comme dit, clandestin. Donc en fait, on peut tout peut toujours s'arrêter à tout moment. On peut être découvert. Le fait que moi je vienne aussi, je suis un risque supplémentaire évidemment. Et en même temps, toutes les jeunes filles que j'ai photographiées avait vraiment envie qu'on montre leur courage. En fait, elles pensent même pas à leur courage, mais qu'en fait qu'on montre leur réalité, puisque qu'on ne les oublie pas tout à fait, qu'on puisse continuer encore à parler d'elles, parce que voilà, l'actualité fait qu'il y a tellement de choses à couvrir qu'on peut pas parler tout le temps des femmes afghanes. Les accès, je le répète, en fait, aux médias et aux journalistes sont très très difficiles. Moi, ce que j'ai pu faire comme travail, c'est parce que j'étais photographe, parce que je parle la langue, parce que je me dissimule et assez facilement. Mais cette intensité, je pense qu'en fait, moi, je la ressens, et donc j'arrive à la retranscrire en photo via la composition. J'ai fait des études d'art, donc la composition, la lumière est évidemment
beaucoup,
très très importante.
Très important dans votre travail.
Après, l'Afghanistan c'est un pays magique en fait pour les photographes. Moi, je me rendais pas compte, mais je sais pas si c'est parce que j'aime beaucoup ce pays que j'y suis très attachée, parce que je suis devenue quelqu'un, moi, grâce à ce pays. J'ai démarré j'aime pas le dire comme ça, mais mon activité, ma carrière de photographe en Afghanistan. J'ai débarqué à 25 ans et je pensais pas y rester. Et finalement, de fil en aiguille, j'y ai passé 10 ans et ça fait presque 20 ans que j'y travaille. Donc je lui dois beaucoup, et si j'y suis restée, c'est parce que évidemment le pays m'a attirée, et je trouve que c'est un pays magnifique où il y a beaucoup 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 de choses à témoigner, et tellement tellement en nuances. Mais voilà, comment réussir à photographier cette intensité? Les situations font que ça transparaît.
Et le risque qu'elles prennent en acceptant de se montrer, comment elles gèrent ça, comment elles appréhendent ce risque-là?
C'est difficile en fait à dire, à répondre. Je sais pas en fait exactement quel risque en fait. Si j'avais été découverte en fait en train de les photographier, est-ce qu'elles auraient été en prison? Est-ce que ce serait leur père qui aurait été en prison, leur frère, est-ce qu'elles auraient été juste entre guillemets battues avec est-ce que j'aurais été renvoyée? Est-ce que j'aurais été mise en prison? En tout cas, il y a tous ces risques-là, et on veut pas. On essaye de ne pas trop y penser, même s'ils sont là. Et en tout cas, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment tout mis en place pour que ça n'ait pas lieu. Après, le risque zéro, effectivement, n'existe pas. Malgré tout, Ces filles, je crois que c'était assez vital pour elles d'être, de me recevoir. J'ai vraiment pas eu besoin de pousser, en fait, toutes les jeunes filles à me recevoir. C'est des jeunes filles que j'ai trouvées via des réseaux d'amis, via, je connais évidemment beaucoup d'Afghanes qui sont aujourd'hui en France et qui ont leur, leurs cousines, leurs amis qui sont restés dans le pays. Donc, il y a une sorte de relation de confiance puisqu'en fait, elles sont adressées par une amie qui est de l'autre côté, enfin qui est en France, mais qui me connaît moins. Il y a vraiment une relation de confiance. Le fait que je connaisse le pays depuis plusieurs années, que je comprenne la culture, je pense que qu'elles ont été mises en confiance et c'était une nécessité pour elles de qu'on montre ce qu'elles font, une nécessité aussi de me voir moi en fait. C'est vrai que elles étaient les moments que j'ai passés avec ces femmes étaient plutôt heureux puisque j'étais une respiration pour elles en fait et parce qu'il y a encore une jeune femme qui me disait il y a peu de temps que l'état psychologique normal d'une jeune fille en Afghanistan aujourd'hui, une jeune citadine en tout cas, c'est la dépression en fait, ça c'est l'état normal. Donc à partir de ce moment-là, sachant que c'est l'état normal, mais qu'on peut pas non plus tout arrêter, on continue, on essaye de vivre, de résister, de s'adapter tout simplement. Et le fait de recevoir chez elle une occidentale, en fait, quelqu'un qui a une ouverture sur le monde extérieur, ça leur redonnait un petit peu de courage, je crois, à continuer, à ne pas se laisser tout à fait mourir tout de suite. C'est comme ça que je le lis, en tout cas.
La santé mentale, oui, c'est quelque chose de très important, dont on ne parle pas forcément tout de suite, mais quand on entend les témoignages des jeunes femmes, et des jeunes hommes, j'imagine aussi, que la situation mentale de ces gens-là, ça doit être très très compliqué.
Oui, c'est compliqué, parce qu'il y a... Il y a aucune perspective à moyen terme d'évolution vers quelque chose d'un peu plus positif, donc ou un changement de régime. Là, tout de suite, il y a pas d'autre solution que de s'adapter. Donc donc les gens sont très très déprimés, ont des problèmes financiers, de gros problèmes financiers, et en même temps, les mamans, les mères ont des filles, les pères ont des enfants à nourrir, les femmes aussi ont des familles à nourrir, donc c'est aussi pour ça qu'elles prennent des risques d'aller enseigner parfois ou d'ouvrir de continuer de travailler dans les rares endroits où elles peuvent encore travailler parce qu'elles n'ont pas le choix. Mais le fait de ne pas avoir de choix en fait fait qu'elles continuent malgré tout à vivre.
Merci beaucoup Sandra Caligaro, merci d'être venue. Afghanistan à l'ombre des drapeaux blancs, c'est à voir jusqu'au 14 septembre au festival Visa pour l'image à Perpignan. Puis vous reviendrez nous parler, parce que vous avez d'autres projets sur le feu. Nous, ça nous a donné envie d'entendre une jeune chanteuse afghane qui est désormais exilée en Australie, c'est Zara Elam. Elle avait été la première femme victorieuse du télécrochet Afghan Superstar, Star, c'était en 2019.
دور دور گشتی من عاقل ده دل من ده پگر با هر با هر با تو سوا ماری خیرا خیرا تو سوا ماری خیرا خیرا دور دور گشتی من عاقل ده دل من ده پگر با هر با هر با تو سوا
C'est fini pour aujourd'hui. Merci à l'équipe qui l'a préparé, Aïssa Tundoy, Boris Pinault, Jules Barbier, Lise Ripoche, Zora Vigne, Marceau Vassier, Margot Chaboch. Elle est réalisée par Laurence Malonda avec Timothée Hubert à la technique.